Vous écoutez
RMC.
Il est 8h tout pile. Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il y a le feu ce matin dans la célèbre station de ski de Courchevel. Un incendie dans un hôtel depuis hier soir. Il se propage au bâtiment voisin. Ce matin, au moins 200 personnes évacuées d'après le bilan qu'on vient de recueillir à RMC. On se demandera dans ce journal comment des jeunes peuvent en arriver à une telle violence. Quatre mineurs sont en garde à vue à Oullins, près de Lyon, pour avoir torturé et séquestré toute une nuit une adolescente de 15 ans. RMC est sur place. Et puis on évoquera tous les enjeux de la soirée de Ligue des Champions. Ce soir sur RMC Le Foot, dernier match de poule pour Paris, Marseille et Monaco, tous les trois dans la course à la qualification.
Il y a donc le feu ce matin à Courchevel.
Oui, je vous laisse imaginer cette image des feux, des flammes dans la neige à Courchevel, donc une des stations de ski les plus huppées du monde. Ça se passe vraiment en plein cœur de la station Courchevel 1850, là où il y a les boutiques de luxe et les touristes les plus fortunés. Romain Houck, vous venez de recueillir les toutes dernières informations ce matin pour RMC sur cet incendie. C'est un hôtel 5 étoiles qui brûle donc depuis hier soir et l'incendie se propage ce matin.
Oui, le feu s'est déclenché vers 19h hier soir au niveau de la toiture de l'hôtel des Grandes Alpes, sans que l'on ne connaisse pour l'instant son origine. Il s'est propagé dans la nuit à une résidence mitoyenne. Le risque, me disait il y a quelques minutes le maire de Courchevel, eh bien, c'est qu'il se propage encore à d'autres bâtiments à proximité. C'est pour cette raison que l'hôtel Lana, un autre complexe 5 étoiles situé tout proche de l'incendie, a été évacué par mesure de précaution. Au total, plus de 200 personnes ont été évacuées. Aucune victime n'est pour l'heure à déplorer, mais c'est un incendie très compliqué à maîtriser pour la centaine de pompiers déployés sur place pour plusieurs raisons. D'abord, vous l'avez compris, c'est la configuration. On a de nombreux bâtiments très proches les uns des autres. Certains même sont entremêlés. Il faut donc éviter que l'incendie ne gagne du terrain. Ensuite, c'est un endroit de la station assez difficile d'accès pour les engins des services d'intervention. Les pompiers sont contraints de monter sur les balcons et les terrasses des bâtiments pour attaquer les flammes à l'aide de lances à incendie. Et puis, le feu brûle au niveau des toits enneigés, ce qui rend l'incendie assez difficile à lire, à analyser. Bref, opération très complexe pour les pompiers qui luttent en ce moment même sur place.
Voilà donc ce qu'on sait ce matin sur cet incendie à Courchevel, avec au moins 200 personnes donc évacuées dans cette station de ski. L'ancien sénateur Joël Guerriau va faire appel, lui qui a été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme hier soir à Paris, reconnu coupable d'avoir drogué en vue de la violer la députée Sandrine Josso, qui se disait soulagée hier soir après le jugement. Dans la banlieue de Lyon, à Oullins précisément, ce sont donc 4 mineurs qui sont en garde à vue pour une sordide affaire de torture et de séquestration survenue dans la nuit de dimanche à lundi. Ils auraient fait vivre l'enfer, littéralement, à une adolescente de 15 ans. Vincent Chevalier, vous êtes en direct pour RMC ce matin dans le quartier où cette adolescente a été retrouvée errante le lendemain matin.
Oui, des passants découvrent lundi matin très tôt cette jeune femme dans la rue, ensanglantée. Très vite, les pompiers arrivent sur place, puis les policiers. Elle leur raconte alors les heures de calvaire subies dans un appartement voisin, ramenée depuis son foyer à Annecy, jusque dans le logement de son ex-petite amie. La victime se retrouve face à 3 autres agresseurs, une fois sur place, des filles mineures entre 14 et 17 ans, dont la nouvelle petite amie du garçon. Et c'est alors que le piège se referme, emmené dans le sous-sol de l'immeuble, déshabillé, torturé, un coup de couteau dans la cuisse, des lacérations dans le dos, des brûlures provoquées par le contenu d'un extincteur. Certains de ces sévices auraient même été filmés. Mais lundi matin, dans des conditions encore inconnues, la jeune fille réussit à s'échapper et quelques heures plus tard, les enquêteurs interpellent 5 personnes, dont les 4 tortionnaires présumés. Tous semblent inconnus des services de police.
Merci Vincent Chevalier. Il est 8h03 sur RMC et une question ce matin. La voiture est-elle en train de devenir un produit de luxe ?
Résultat de l'enquête menée par un assureur, 90% des Français estiment que posséder une voiture coûte trop cher et 74% disent même que c'est donc devenu un produit de luxe, un luxe d'en posséder une, en tout cas avec les frais incompressibles qui ont doublé en 10 ans. C'est ce que nous dit cette étude. La preuve, écoutez à Rennes avec Martin Lange.
Depuis une dizaine d'années, Anthony n'utilise plus sa voiture au quotidien. Pour se rendre sur son lieu de travail, il parcourt 9 km à vélo et il fait des économies.
Quand on regarde la carte grise, l'assurance, l'essence, les pannes, ça se chiffre globalement en milliers d'euros. Alors qu'un vélo, on se rend compte que la différence, elle est quand même assez énorme. Au minimum de plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros.
Avec sa compagne, ils ont gardé une voiture pour partir en week-end. Victime d'une panne il y a 2 ans, Muriel, elle a décidé de se passer définitivement de son véhicule.
Changer le moteur, ça coûte au moins 6-7 000. Hein. J'ai pas les sous non plus. C'est un budget. Ouais, les assurances, l'essence, le gasoil, je renonce à ça. Oui.
Désormais, elle circule avec un vélo électrique acheté 700 euros. Eric, lui, a vendu sa voiture il y a 5 ans.
On trouvait que ça coûtait cher, quoi. Payer une assurance, l'entretien. On se dit qu'on gagne à peu près au moins 100 euros par mois.
Ces coûts incompressibles, ils pèsent sur de nombreux Français, selon Thomas Utayakumar de la Fondation pour la Nature et l'Homme.
On sort de l'imaginaire, la voiture, c'est la liberté. C'est pas ça la réalité. C'est qu'on a des millions de personnes en situation de précarité mobilité qui cherchent à se mouvoir autrement que par la voiture qui coûte très cher.
Mais ces comportements restent marginaux. Aujourd'hui, la voiture représente encore près de 63% des trajets quotidiens.
Les dirigeants du Danemark et du Groenland sont reçus par Emmanuel Macron à Paris aujourd'hui pour remercier les Européens et notamment les Français d'avoir fait bloc face aux menaces récentes de Donald Trump. La France enverra d'ailleurs début février un tout premier diplomate au consulat français situé au Groenland. Aux États-Unis, tiens, puisqu'on en parle, Donald Trump semble reculer. Il annonce un début de retrait de sa police de l'immigration à Minneapolis, devenu le symbole de la politique d'expulsion massive du président américain, où 2 Américains ont été tués dans des opérations de police en 3 semaines. En revanche, cette police de l'immigration, eh bien, elle sera bien présente aux Jeux Olympiques en 9 jours qui débuteront à Milan Cortina en Italie pour des opérations de renseignement. C'est la précision qui a été faite autour de la délégation américaine. Le maire de Milan dit déjà que cette police de l'immigration américaine n'est pas la bienvenue.
Et c'est une soirée pleine de suspense qu'on va vivre ce soir sur RMC.
Et que vous allez animer. Jean-Louis Tour, chef de la cellule foot à RMC en direct avec nous ce matin. C'est la dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Les 18 matchs tous en même temps à 21h et de l'enjeu pour nos 3 clubs. On va commencer par Paris face à Newcastle pour se qualifier directement en 8e de finale.
Oui, c'est l'idée pour le PSG d'aller directement en 8e et d'éviter les 2 matchs supplémentaires du barrage. Ce sera un gain d'énergie précieux dans un calendrier chargé pour le PSG cette année. Et pour y parvenir, l'entraîneur pourra compter sur le retour d'Hakimi, l'un de ses meilleurs joueurs qui a passé le mois de janvier à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le PSG qui reste sur une fausse note dans cette compétition avec une défaite au Portugal contre le Sporting.
Marseille et Monaco, respectivement à Bruges et contre la Juventus, eux joueront pour rester dans la compétition.
Oui, alors l'OM a près de 95% de chances de se qualifier pour disputer ce barrage. Il faudrait perdre à Bruges et que dans le même temps, 6 équipes dépassent l'OM. Alors l'objectif sera surtout de poursuivre sur la lancée du gros match marseillais contre Lens en championnat samedi. Et en cas de bons résultats en Belgique, l'OM se qualifierait enfin après une phase de poule de Ligue des Champions. La dernière fois, c'était en 2012. Et puis Monaco est un peu moins bien loti, 2 places derrière Marseille. La SM qui devra prendre un point contre la Juventus Turin, un gros morceau. Et le problème, c'est que les Italiens sont en forme et les Monégasques, pas du tout. 4 défaites sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 et une humiliation sur la scène européenne, 6-1 à Madrid, à faire oublier, bien sûr, pour s'offrir un avenir européen.
Voilà donc pour les enjeux de la soirée qui nous attend ce soir sur RMC. Les coups d'envoi de tous les matchs en même temps, donc à 21h, on vivra ça ce soir. Je vous signale aussi, il y a l'Euro de handball en ce moment. Pas le droit à l'erreur pour la France contre l'Allemagne qui jouera à 18h. C'est la fin du tour principal avec à la clé une place en demi-finale.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour.
La fraude aux cartes bleues est en baisse.
Absolument, elle a reculé de 10% au premier semestre 2025, c'est les derniers chiffres dont on dispose et qui viennent d'être publiés, donc moins 10% par rapport au 6 premiers mois de 2024, c'est ce que nous disent la Banque de France et l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Ça ramène ce niveau de fraude à ses plus bas niveaux historiques. En gros, 48 euros de fraude pour 100 000 euros de paiement par carte. On était à 53 euros un an plus tôt. Donc, tous les dispositifs mis en place pour sécuriser nos paiements, l'authentification forte avec la biométrie, par exemple, le visage, l'empreinte, le code à usage unique qu'on reçoit sur son portable, ok, c'est fastidieux, le numéro de carte jetable, l'intelligence artificielle utilisée par les banques, tout ça, c'est parfois un peu pénible, mais ça fonctionne.
Ça marche dans l'ensemble. Est-ce que globalement, les fraudes On les maîtrise et ça progresse.
Alors, ce qui progresse, c'est les fraudes. C'est ça qui est fou, c'est que ça diminue sur les cartes bancaires, mais ça augmente assez nettement sur l'ensemble des fraudes. Plus 7%, c'est une progression plus rapide que celle des moyens de paiement dans leur ensemble. Et c'est dû à la très forte progression de la fraude par manipulation. On est à quasiment 40% d'augmentation de cette fraude par manipulation sur un an. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, à utiliser des numéros banalisés, des 06, des 07, pour adresser des SMS frauduleux ou passer des appels usurpant l'identité d'un tiers ou d'un organisme. Ça peut être la banque, la sécurité sociale, une société de livraison. On vous fait croire que vous êtes victime d'une arnaque et qu'il faut vous protéger, qu'un paiement est refusé, qu'un colis est en attente, que l'IBAN d'une société a changé. Tout est bon pour vous soutirer vos coordonnées bancaires.
Comment on fait pour éviter de se faire arnaquer?
Alors, ces techniques d'escroquerie, elles exploitent toujours les mêmes ressorts, hein, l'urgence, la peur, l'autorité, la confiance, l'émotion, la générosité, tout ce qui peut nuire à votre lucidité et vous empêche de garder votre sang-froid. La sécurité technique, elle est solide. Le maillon faible, il faut bien s'y résoudre. C'est nous, les voyants rouges qui doivent s'allumer.
C'est nous, l'humain, quoi.
C'est ça, c'est ce qui se passe entre le siège et le clavier.
Ouais, en gros, hein. Vous nous dites à chaque fois que c'est ça.
C'est ça.
Là, en l'occurrence, entre le siège et le téléphone.
Exactement. Les voyants rouges qui doivent s'allumer quand même dans votre lettre, hein, c'est des injonctions du type « il faut agir tout de suite ». C'est les appels entrants que vous ne maîtrisez pas. On ne fait jamais confiance à ces appels. Éventuellement, vous appelez le numéro qui est au dos de votre carte bancaire. Par exemple, jamais vous ne communiquez le moindre code au téléphone, par SMS ou par mail. Jamais. Et si on vous demande d'agir pour votre sécurité, n'oubliez jamais que c'est souvent pour vous voler.
Merci Emmanuel. Par principe, on ne fait pas confiance.
Non.
Voilà. Emmanuel Le Chypre, il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le président de l'UDR, allié du RN, Éric Ciotti. Juste après, il y aura Nicolas Cantelou et ses imitations face à Cantelou. C'est tous les jours sur RMC à 8h50. On se retrouve dans un instant. Restez bien avec nous. 8h11.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 sur RMC, c'est tous les jours de manche, sauf que bon, notre pauvre de manche, il a un très 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 gros rhume. On lui souhaite donc un prompt rétablissement et en attendant, on vous en a gardé le meilleur. Le député Emmanuel Duplessis. C'est pas celui-là.
Un nouveau.
Propose d'interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée et de ne plus la rembourser avec les frais de mandat.
Voilà, on paye pour que nos députés puissent se bourrer la gueule juste avant d'aller voter nos lois. Mesdames et messieurs, la France.
Pas mal, non? C'est français.
Est-ce qu'il y a un autre métier où tu payes de l'alcool à quelqu'un juste avant qu'il fasse quelque chose de déterminant pour toi? Quand même, Apolline, Gérald, Virginie, si vous avez besoin d'une opération à cœur ouvert et que le chirurgien s'enfile un grand verre de rouge remboursé par la Sécu, vous vous dites, il y a peut-être une arnaque quelque part.
Bon, allez, on va s'y mettre. Quelqu'un peut me passer la scie?
Non, non.
Je suis pas endormi, monsieur. Oh, pardon. Fais dodo, j'ai plus pas.
Bref, quoi. Et alors, il y a un ancien député, Stéphane Vogetta.
Ah, lui non plus,
Ouais, c'est pas alors bien. Lui, c'est marrant, il a un nom de perso de Dragon Ball. Stéphane Vogetta. Ça fait marrer que les fans de manga. Et alors, il a protesté sur Twitter, lui. Il a dit, c'est une pensée de perle à morale. On nous sort l'argument, oui, le français moyen ne boit pas sur son lieu de travail. Mais le français moyen travaille-t-il de 9h à minuit, comme les députés? J'ai envie de te dire, mais c'est pire.
Ouais.
On va pas rajouter l'alcoolémie à la fatigue. En tout cas, je trouve que ça explique vachement bien l'état de ce pays.
Ah oui.
J'ai l'impression que c'est assez récent comme problème. Enfin, je me souviens pas de polémique du genre dans les années 90. J'aurais adoré, hein, ceci dit, voir Édouard Balladur monter en succubant à la tribune en faisant
« Pour répondre à madame la députée Simone Veil. » Oh, Simone, elle est bonne, hein?
Oh non.
Simone, elle est bonne. La croissance redémarre comme la chenille, mais des deux pieds en canard. C'est la croissance qui redémarre.
Oh non.
Une pétition réclame des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en Île-de-France.
Oui, mais bon, je me mets à leur place, ça fait flipper les transports parisiens. C'est terminé, un tramway nommé Désir. Maintenant, on est sur un RER nommé Oscar. Les wagons pour femmes, alors, je suis contre, hein, totalement.
parce que ça m'obligerait moi à monter dans un wagon plein de mecs et moi non plus j'ai pas envie. Moi non plus je veux pas faire ça. Des mecs frustrés parce qu'il faut aller au boulot, qu'on est serré et qu'en plus on leur a interdit d'acheter des poupées maintenant. C'est vraiment comme être en prison.
Quelle horreur.
Mais c'est vrai que pour les filles c'est relou, hein, les frotteurs, les agresseurs, je me mets totalement à leur place. Les mecs qui draguent comme des bœufs dans les wagons, faut le vouloir pour draguer dans le RER d'ailleurs. Hein. Les mecs ont pas honte. Dans 6 mois vous allez voir Apolline, ils vont passer dans les wagons. Moi je les vois déjà.
Non. Mesdemoiselles et mesdames, actuellement sans gonzesse, je me permets de passer parmi vous pour choper un numéro de téléphone ou deux, car ça fait maintenant 8 jours que je n'ai pas baisé. Si vous pouviez me dépanner d'une brouette javanaise, d'une cravate espagnole ou même d'un tourniquet norvégien, je vous en remercierais. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais ça, mais ça n'est pas facile de pécho quand on a ma tronche et mes boutons.
Oh non.
Je ne vous demande pas grand-chose, juste de me laisser toucher un nichon ou deux, ou votre ticket de métro. En vous remerciant d'avance, je vais maintenant passer parmi vous afin de frotter un maximum de cul. C'est affreux. C'est affreux. Heureusement, on lutte contre ça. Il y a des campagnes de prévention. Il y a peut-être, les wagons séparés. On verra. Il y a surtout de la vidéosurveillance, Apolline. Ça se fait beaucoup. Comme ça, on pourra même bientôt, avec l'intelligence artificielle, identifier les harceleurs à la caméra, les archiver dans la data, et la machine les re-repérera s'ils viennent dans d'autres gares.
Oui.
Il y aura une annonce sur les quais, on entendra.
Non.
Le gros relou, numéro 6424, à destination d'une nana qui ne lui a rien demandé, va entrer en gare, voie C. Il dessert la cause masculine en général et emmerde des femmes à Strasbourg, Mulhouse, Vitré, Hermont, Colombes et Paris-Saint-Lazare. Éloignez-vous de cette ordure du quai, s'il vous plaît. Voilà.
Et on est avec vous, il est 8h19, on pense très très fort à notre Arnaud Demanche qui sera de retour, on l'espère, demain. Moi-même, j'avoue que j'ai quand même un gros rhume, mais ça devrait aller. Il est 8h19 et Anthony est avec nous qui voulait témoigner parce que, Anthony, vous réagissez à ces chiffres de l'immigration. À la fois, ils n'ont jamais été aussi hauts. En revanche, la question de l'immigration de travail, elle, est beaucoup plus faible. Bonjour Anthony.
Bonjour Apolline.
Anthony, vous êtes travailleur social et vous accompagnez justement des primo-arrivants. Dites-nous.
C'est ça. Oui, en fait, effectivement, moi je suis travailleur social, surtout dans l'insertion socio-professionnelle de ce public-là. Donc j'accompagne au quotidien des primo-arrivants, des réfugiés, des demandeurs d'asile de plus de 6 mois.
Ok.
Voilà. Et d'ailleurs, avant de poursuivre, une petite parenthèse. Vous m'accompagnez depuis 5 ans que je suis dans ce métier-là. Vous me permettez de faire ma veille informationnelle du matin. Vous êtes incroyable et merci, parce que du coup, vous alimentez mon travail et mes discussions du midi. Donc, merci Apolline, des poutous à vous, à vraiment tout le monde, l'équipe entière,
vous êtes incroyable. On prend, franchement, merci
vraiment,
beaucoup.
Je vous adore, je vous kiffe.
C'est génial. Écoutez, Anthony, merci, ça fait toujours plaisir. Mais cela
donc,
dit, justement, ce qui m'intéresse, c'est aussi votre témoignage. Et c'est ça qui me plaît, d'ailleurs, et je vais vous dire, c'est aussi pour ça que je suis particulièrement heureuse de me réveiller tôt pour être avec vous tous les matins. C'est parce qu'effectivement, on informe et on a ces témoignages très divers de gens qui pensent des choses aussi très différentes, mais qui font aussi ce qu'est la France. Anthony, vous, au quotidien, donc vous les accompagnez, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous voyez?
Moi, je constate qu'en fait, j'ai une multitude de personnes qui arrivent pour différentes raisons, vie privée, familiale, effectivement, travail temporaire, etc., qui arrivent avec différentes situations. La majorité, mais vraiment l'écrasante majorité, ne cherche qu'une chose, c'est s'insérer réellement dans la société française et travailler, parce qu'ils ont un sens de l'effort, un sens du travail, que des fois, il nous manque même nous, en tant que citoyens français, on perd un petit peu, et ça je le vois aussi sur les accompagnements que je fais de citoyens français. Donc la plupart arrivent avec cette envie de travailler, cette envie aussi, et ce besoin, parce que, par exemple, sur des demandeurs d'asile.
Et ils se heurtent désormais parfois à... Alors, on l'a vu, hein, à la fois, c'est tout le paradoxe de ces chiffres, l'immigration, il n'y en a jamais eu autant de régularisation, mais dans le même temps, pour des raisons économique, là, pour le coup, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a des régularisations pour des raisons familiales, par exemple, pour des raisons humanitaires, mais moins pour des raisons économiques.
Mais bien sûr, mais parce que par exemple, je vous donne la majorité de mes accompagnements, ouais, ce sont effectivement des demandeurs d'asile. Demandeurs, okay, d'asile, donc ça va être une situation plutôt humanitaire, guerre dans le pays, etc. Mm-hmm. 100%, et je dis bien 100% de mes demandeurs d'asile ne cherchent qu'une chose et ont besoin qu'une chose, travailler. Travailler pourquoi? Ouais. Parce qu'il reste de la famille au pays qui sont en danger. Travailler pourquoi? Pour rembourser la dette de migration qu'ils ont accumulée pour arriver, mm-hmm, sur ce pays. Je ne connais pas un seul de mes suivis qui ait traversé un parcours de migration aussi complexe qui leur traumatise quasiment sur des dizaines,
oui,
d'années.
En prenant parfois des risques vitaux. Hein. Ouais.
Sans français. Et en plus, c'est une hérésie et une hypocrisie française. Parce que on leur dit, mesdames, messieurs, vous êtes arrivés sur le territoire, vous devez être en attente de régularisation. Donc vous avez une demande en cours, que ça soit demande d'asile, titre de séjour, très bien. Ouais. En attendant d'avoir le papier, vous n'avez pas le droit de travailler légalement. Alors on sait bien qu'en
attendant... Sauf que pour avoir le papier, il faudra prouver que vous travaillez. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose de très très contradictoire. Anthony, je suis très heureuse de vous avoir accueilli ce matin. Merci de votre témoignage. Justement, l'immigration, alors on en parle avec quelqu'un qui pour le coup voudrait tout mettre sur pause. C'est Éric Ciotti qui est mon invité dans un instant sur RMC et BFM TV. Mais je porterai aussi, Anthony, votre témoignage. Il est 8h22, on se retrouve donc dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Un scénario digne d'un film d'horreur à Oullins, au sud de Lyon, où une adolescente de 15 ans a été retrouvée lundi matin après avoir été séquestrée et torturée par quatre autres mineurs, quatre jeunes dont son ex-petit ami arrêté et placé en garde à vue. Ils seront déférés aujourd'hui devant le parquet des mineurs de Lyon. La députée Sandrine Josseau, soulagée après la condamnation hier soir de Joël Guerriau pour soumission chimique, l'ex-sénateur écope de 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, et annonce faire appel. La météo, toujours des vigilances orange pour les crues en Bretagne. Orange aussi pour les risques d'avalanche sur les Alpes du Sud. Le temps sera très perturbé dans l'Est, du Massif central aux frontières de l'Est. Avec des fortes pluies dans l'Ouest, c'est temporairement plus calme. Température entre 5 et 15 degrés cet après-midi.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Vous êtes le président du parti UDR, vous êtes député des Alpes-Maritimes, vous êtes d'ailleurs aussi candidat à la mairie de Nice. Beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord sur l'immigration, parce que les chiffres sont tombés hier. L'immigration atteint un niveau record en France, mais pas l'immigration de travail. Est-ce que vous vous désolez qu'il n'y ait pas d'immigration de travail? Les travailleurs, et notamment le monde de l'hôtellerie-restauration, les agriculteurs eux-mêmes, disent que c'est un vrai problème.
Ces chiffres traduisent en effet le fait que 92 ou 93% des étrangers qu'on accueille, et vous avez raison de rappeler que c'est un record absolu depuis la Seconde Guerre mondiale, 530 000, 550 000 étrangers, si on ajoute les demandeurs d'asile, les mineurs isolés et les 384 000 titres de séjour, on arrive autour de 550 000, c'est le double, je le souligne, depuis l'élection de M. Hollande. Du temps de M. Sarkozy, il y avait deux fois moins de titres, c'était déjà beaucoup, c'était déjà trop, mais on a doublé. Or, dans ces chiffres, il y a à peine 7 à 8% de gens qui viennent travailler. Donc ça veut dire, à contrario, que 92 ou 93% des étrangers qu'on accueille ne viennent pas pour travailler. Et donc, quelque part, constituent une charge pour notre pays.
Une charge, y compris ceux qui ont obtenu l'asile.
Une charge pour notre pays.
L'asile, les raisons humanitaires qui sont en hausse.
L'asile est totalement dévoyé. 155 000 demandeurs d'asile accueillis l'année dernière. Des taux d'obtention du statut de réfugié, on était il y a quelques années à 25-30%, on est passé à 50% aujourd'hui, donc il y a une plus grande générosité dans l'octroi du statut noble de réfugié, qui quelque part devient un peu galvaudé, donc l'asile est devenu la porte d'entrée légale à l'immigration illégale. Il suffit de dire à la frontière que vous êtes demandeur d'asile, même si vous venez d'un pays où il n'y a absolument pas de conflit, absolument pas de guerre, et vous obtenez ce statut de demandeur d'asile.
Obtenez, voilà, le statut de demandeur d'asile.
Oui, mais qui vous fait rentrer.
Vous ouvrez un dossier en quelque
qui
sorte.
Qui vous fait rentrer dans un long parcours administratif devant l'OFPRA. Ensuite, il y a un appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Si ces deux étapes sont rejetées, le requérant peut aller devant le tribunal administratif. Après, il peut faire valoir qu'il est malade. Et au final, ceux qui arrivent restent en France. Il n'y a quasiment
pas
d'éloignement.
Le droit d'asile ?
Mais il faut le restreindre. Moi, je propose que l'asile soit donné à l'extérieur de notre pays. Il faut qu'on exclue les demandeurs.
C'est-à-dire qu'on le demande avant d'entrer.
Absolument, notamment dans les consulats à l'étranger. Qu'on exclue ceux qui viennent de pays sûrs et qu'on soit beaucoup plus restrictif. Regardez, l'Allemagne l'a fait, la Grande-Bretagne l'a fait.
Mais l'Allemagne avait longtemps été très ouverte. Oui, on se souvient évidemment du million de migrants accueillis par Angela Merkel.
Ce qui fut une faute historique devant l'histoire. Cette ouverture de nos frontières, c'est d'ailleurs dans ces flux que les terroristes du Bataclan sont arrivés. Donc c'est une erreur historique. C'est pas parce que l'Allemagne a fait des erreurs historiques qu'il faut les reproduire chez nous. Il y a une urgence à couper le robinet migratoire.
L'Allemagne restreint, l'Espagne à l'inverse va régulariser légale. 500 000 travailleurs.
C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. La régularisation de ceux qui sont là. J'y suis naturellement totalement opposé parce que c'est un appel d'air. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est que nous, on n'a jamais laissé autant rentrer de personnes et qui ne sont là, et qui, vous avez raison de le souligner, s'il y avait une immigration de travail.
Mais ça, vous êtes...
On peut ouvrir ce débat. Moi, je ne suis pas pour l'immigration zéro. On est un pays qui peut avoir besoin de talents.
Vous n'êtes pas pour l'immigration zéro.
Qui viennent de talents. On peut avoir besoin de chercheurs, on peut avoir besoin d'ingénieurs.
Vous metteriez des quotas, c'est l'idée de Gérald Darmanin qui parle d'un moratoire. Tout mettre sur pause et ensuite, éventuellement, un référendum, voire même des quotas.
Je rappellerai à M. Darmanin qu'il est au pouvoir depuis 9 ans. C'est pas l'idée de M. Darmanin. On l'a eu bien avant lui. J'ai même déposé une proposition de loi constitutionnelle à laquelle M. Darmanin, Mme Borne, M. Macron s'étaient opposés pour que, justement, dans la Constitution, il y ait la capacité pour le Parlement de choisir. Parce que si le Parlement disait chaque année, allez, on ne dépasse pas un nombre d'étrangers, y compris pour les demandeurs d'asile, il y aurait la possibilité de réguler l'immigration zéro. Naturellement, moi, je n'adhère pas à cette idée. Mais il faut... parce que elle est illusoire, mais on ne peut pas rester dans ces niveaux aussi insupportables.
Je vous pose quand même la question, est-ce que finalement Gérald Darmanin, quand il dit qu'il faut tout mettre sur pause pendant 2 ou 3 ans, le temps justement de pouvoir organiser un référendum, voire la question des quotas, est-ce que vous dites à Gérald Darmanin, faisons-le ensemble?
Monsieur Darmanin, il est dans la communication permanente. Quand il est au pouvoir, il ne fait pas ce qu'il dit. C'est d'ailleurs le problème de la classe politique qui nous gouverne. Ce sont des discours forts. Entendez, rappelez-vous tous les discours sur l'immigration, toutes les lois. Et pourtant, d'année en année, on franchit des records parce qu'il n'y a pas le courage nécessaire d'adopter les vraies mesures et de les faire valider. Et là, c'est la clé de tout, par un référendum, parce que les Français... Qu'est-ce qu'ils nous disent tous, y compris à gauche, qu'il y a trop d'immigration, qu'on ne peut plus l'assimiler, qu'elle met en cause notre modèle culturel aujourd'hui. Et ils veulent une restriction. Et ceux qui nous gouvernent, parce qu'aujourd'hui ils sont sous la pression du Parti Socialiste, ouvrent les vannes. Et ça, c'est totalement insupportable.
Éric Ciotti, est-ce que Donald Trump est toujours pour vous une source d'inspiration ?
Donald Trump, il a été élu par les Américains, il n'a pas été élu par les Français. Il fait globalement la politique pour laquelle il a été élu. Moi, je suis en France. Nous avons un programme pour les Français. C'est totalement différent. Il défend les intérêts de son pays avec des méthodes qui sont brutales, notamment pour les Européens. Mais ce que ça souligne dans sa brutalité, c'est la faiblesse, l'impuissance
brutalité
des Européens.
Brutalité sur la question des relations internationales, brutalité aussi sur son propre sol, avec la police aux frontières et la police d'immigration, la fameuse ICE, qui a des méthode pour le moins brutale, jusqu'à tuer. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ?
Je vois l'émotion que ces morts ont suscité, et c'est légitime. J'aimerais qu'on se préoccupe plus des 30 000 morts en Iran. Je vois la presse parler uniquement de ces deux faits extrêmement regrettables, bien sûr, mais on parle de 30 000 morts en Iran aujourd'hui.
Rapport,
oui.
On peut parler des deux.
Vous m'interrogez sur ce qui se passe aux États-Unis.
Vous me répondez Iran.
Je dis Il est légitime, le président a été, des États-Unis a été élu pour lutter contre l'immigration, il met en place une politique de lutte contre l'immigration. Je ne vais pas le contester, je crois qu'il est dans le rôle mais du mandat méthode, que lui ont donné les Américains. Après, les méthodes, ce sont des méthodes qui lui appartiennent, je déplore naturellement les morts, je m'étonne du prisme médiatique qui regarde plus ces regrettables actes qui ont été commis, que je déplore et que je condamne,
mais c'est la question de,
plutôt
c'est la question
que les 30 000 morts en Iran aujourd'hui
c'est la question
qui devraient
de
soulever
force.
Une émotion internationale. Voilà, je vous le dis.
Sur les 30 000 morts et l'émotion internationale, je suis absolument et totalement d'accord avec vous. Mais je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous prendriez l'un pour justifier l'autre. C'est-à-dire qu'au fond, la question malgré tout de l'usage de la force dans une démocratie, c'est une question essentielle. Qu'il pourrait y avoir, je vais vous poser la question tout simplement, Éric Ciotti, si vous étiez au pouvoir, j'imagine qu'il faudrait appliquer les décisions que vous voulez mettre en place d'expulsion, notamment des immigrés clandestins.
Bien sûr.
On est bien d'accord. Alors, à qui donneriez-vous mandat pour le faire appliquer? Y aurait-il une police spécifique? Et s'il arrivait, des drames comme celui-là, quelle serait votre réaction?
Mais nous avons, Madame de Malheur, nous avons des
Est-ce
lois.
Est-ce que vous diriez, c'est désolant?
Nous avons des lois en France, comme il y en a aux États-Unis. Si des actes contraires à la loi, aux lois fédérales américaines ont été commis, ils seront sanctionnés. La justice américaine est très sévère, notamment contre les policiers. Mais en France, qui va appliquer notre politique d'éloignement? La police.
Il n'y a pas eu un mot de désolation.
La police
sur ces deux personnes qui ont été
tuées. La police aux frontières.
De la part du pouvoir, de la part du gouvernement.
Vous m'interrogez sur la France. C'est la police aux frontières. On a des lois. Il faudra qu'elles soient beaucoup plus fermes. Il faudra qu'elles soient moins laxistes. Il faudra qu'il y ait des moyens matériels considérables. Vous savez, les policiers qui font les éloignements, notamment dans les avions, ont des conditions de travail épouvantable, parce que les étrangers qu'ils éloignent connaissent toutes les ficelles pour s'opposer aux éloignements. Ce sont les policiers, j'en discutais avec certains qui m'en parlaient récemment. Donc arrêtons sur un fait, sur des actes, sur des meurtres. Je ne sais pas si c'est meurtre.
Vous diriez
peut-être
meurtre.
Le mot doit être qualifié par la justice, mais ce qui s'est passé, je le condamne, je le déplore. Mais ne mettons pas en cause, du fait de ces incidents, un système d'éloignement. Chaque pays doit avoir la capacité, et c'est ce que je souhaite pour la France, de dire qui il veut ou qui il ne veut pas sur son territoire.
Je vous
et
pose
ceux qui
donc
rentrent
la question.
Ont vocation à partir.
Je vous pose également la question, effectivement, de l'Iran, même si pour moi l'un n'a rien à voir avec l'autre, mais puisque vous l'évoquez, évidemment, j'y reviens. Est-ce que ce même Donald Trump, dont semble-t-il, vous finissez quand même par dire qu'il y a eu. Vous dites même le mot meurtre, alors il vous échappe un peu, mais enfin tout de même. Est-ce que pour vous, vous espérez que Donald Trump intervienne en Iran?
Oui, j'espère que le peuple iranien puisse se libérer par tous les moyens. Aujourd'hui, il subit un martyr, il subit le poids d'une dictature qui, depuis trop longtemps, prive les Iraniens, prive ce peuple extraordinaire de liberté et s'en prend notamment aux femmes. Il faut que ce peuple se libère. Tous les moyens pour le libérer doivent être utilisés. Et s'il y a une intervention américaine, elle sera bienvenue, la bienvenue, et personnellement, je la souhaite.
Vous aimeriez que la France mette les gardiens de la révolution, les mollahs, les responsables du régime iranien sur la liste des terroristes?
Nous l'avons demandé à l'Assemblée nationale. Il faut le faire. Je vois le gouvernement dans une forme d'ambiguïté. Il n'a pas répondu hier à une question sur ce sujet.
Comment vous expliquez cette ambiguïté?
C'est une faute. Parce que c'est la diplomatie française, c'est la diplomatie macronienne, c'est celle du en même temps qui ménage tout le monde. Et finalement, on se discrédite partout.
Vous avez voté contre le gouvernement hier et Monsieur Le Cornu vous a reproché de jouer double jeu. C'est-à-dire d'un côté de dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais de l'autre en même temps, quand enfin on met un budget pour la France, de ne pas le voter.
D'abord, la déclaration de Monsieur Le Cornu qui répondait à une question sur un drame terrible qui a touché notre pays, qui a touché la ville de Nice.
Le viol d'une
viol
d'une nonagénaire à Nice.
Une vieille dame de 90 ans, boulevard de la Madeleine à Nice. Pas simplement au-delà du viol, il y a eu une agression. Cette personne est encore hospitalisée. Je pense à elle. Monsieur Lecornu n'a pas eu un mot de compassion. Il a fait de la politique politicienne.
C'est pas vrai. Moi, j'ai écouté l'ensemble de l'intervention. Oui, il a quand même commencé.
Il a fait surtout
par parler d'elle et de sa famille.
De la politique.
Non, mais vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu un mot. C'est pas vrai.
Politicienne.
C'est factuellement faux.
Il a fait de la polémique politicienne. Moi, ce que je lui reproche, parce que qui a violé cette personne? Qui est l'auteur présumé? Et c'est là où on est au fond du sujet. Une personne sous OQTF. Une fois de plus, une fois de trop. C'est ça qui est insupportable. Et monsieur Lecornu, il nous dit quoi? Il nous dit, faut voter mes mesures. En gros, ça sert à quoi? Qu'il reste en place? Mais pour faire quoi? Depuis l'élection de monsieur Macron, il y a 70% d'homicides et de tentatives d'homicide. En plus, il y a 115% de violences sexuelles.
Puisque vous évoquez la question des OQTF.
55% de coups et blessures. Et on veut, il voudrait qu'on lui donne un chèque en blanc.
Éric Ciotti, vous l'avez peut-être vu, le maire.
La seule solution, c'est qu'il s'en aille. C'est qu'il démissionne.
Et c'est qu'on
dans
revote ce sens que vous
et qu'on ait la vraie alternance dans l'alliance qu'on a voulu la censure. Avec le RN et
je voudrais vous poser la question de ce qui se passe à Chécy, c'est en Seine-et-Marne, un maire qui avait refusé de célébrer un mariage parce que le marié était sous OQTF. Finalement, obligé de le faire, il a remis sa démission, tout comme l'ensemble du conseil municipal, démission refusée par la préfecture. Et le maire a finalement jusqu'à jeudi pour publier les bans, sans quoi le juge de l'exécution du tribunal de Meaux a décidé qu'il serait pénalisé de 500 euros par jour si les bans ne sont pas publiés d'ici jeudi. La somme passera même à 3000 euros par jour si le mariage n'est pas célébré à la date annoncée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Payer quand, ou marier?
Quand on entend ça, c'est une sidération qui me frappe. Je me dis, est-ce que notre France a encore un avenir? Quand on voit de telles décisions qui sont contraires à tous les intérêts supérieurs de notre pays, sanctionner un maire courageux, faire payer le contribuable local, alors qu'on va faciliter quelque part la violation de la loi par un étranger en situation irrégulière.
Alors je sais bien qu'il n'y a pas de violation parce que
oui, mais on voit bien.
Il n'est pas prouvé qu'il s'agirait d'un mariage blanc.
Le zèle qui est fait derrière tout ça.
Le zèle de qui? De la mairie, du tribunal de l'État.
Moi, je soutiens ce maire. Il est extraordinairement courageux et il faut que tout le monde le soutienne. J'ai voulu faire changer la loi. Vous rappelez, mon groupe a déposé une proposition de loi qui a été examinée. C'était en juin dernier, en juin 2025. Ce texte n'a pas été adopté du fait de la volonté de Monsieur Wauquiez, parce que ses députés n'étaient pas là. Et on a eu une obstruction toute la journée de LFI,
de toute la gauche.
Donc il faut une loi.
Donc oui,
elle était attendue. Moi, je l'ai proposée.
En attendant, c'est jeudi. Si jeudi les bans sont pas publiés, il paye 500 euros par jour. Et si ensuite le mariage est pas célébré, il paye 3000 euros par jour.
Il faudra que l'État, s'il est cohérent, rembourse à la mairie cette somme.
Donc tant pis, il ne marie pas, il paye, mais en espérant que l'État le cap.
Les Français sont derrière lui. On ne peut plus accepter de se laisser marcher dessus. Il faut que la France réagisse, il faut qu'elle se lève. Mais il faut qu'elle se lève avec des hommes qui la dirigent de façon courageuse et pas avec des lâches aujourd'hui qui ne prennent aucune décision pour garder leur place parce qu'ils la tiennent du Parti Socialiste et de l'extrême gauche. C'est ça la réalité.
Éric Ciotti, Michel Houellebecq a répondu en exclusivité ce matin à BFM TV, première interview depuis 3 ans à un média français. Il parle ouvertement d'un risque de guerre civile en France. Je voudrais que vous l'écoutiez.
J'envisage différentes possibilités.
Même la guerre civile dans une chanson?
Oui, dans une guerre civile, oui, c'est une possibilité aussi, oui. J'ai pas l'impression d'être le premier, quoi, à envisager éventuellement des futurs tragiques.
Il dit qu'il lui pèse d'ailleurs d'avoir parfois une parole prophétique. Qu'est-ce que vous répondez à Michel Houellebecq? Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile en France?
Michel Houellebecq, par le passé, a démontré combien il avait une capacité de visionnaire, je dirais malheureusement, de la dégradation de la situation dans notre pays. J'échange souvent avec Michel Houellebecq. C'est sans doute le plus grand intellectuel, le plus grand écrivain de ce siècle. Et il faut l'écouter, il faut l'entendre, parce qu'il connaît mieux que quiconque les ressorts de cette France profonde qui est méprisé aujourd'hui, qui est ignoré par un pouvoir qui est coupé de toutes les réalités depuis trop longtemps. Donc si, la voix si de Michel
le,
Houellebecq.
Si le RN et vous-même arriviez au pouvoir, est-ce que vous imaginez qu'il y aurait des réactions possibles en France et peut-être même que ça soit la cause d'une guerre civile ?
Absolument pas. L'ordre sera rétabli lorsque nous arriverons. Parce qu'aujourd'hui, c'est le désordre. C'est le désordre dans la rue, c'est le désordre dans les comptes. On le voit, tout s'effondre aujourd'hui. La dette, les déficits, les records d'immigration, le sujet de cette interview le démontre. Tout s'effondre. Et à un moment, ceux qui sont les responsables de cet effondrement doivent être balayés. C'est ce que veulent les Français.
Merci.
C'est pour ça qu'il faut leur redonner la parole.
Merci Éric Ciotti. Tiens, une question. Vous étiez hier soir sur CNews. Est-ce que vous iriez le matin dans l'émission de Jean-Marc Morandini ?
Je n'y suis jamais allé, donc je n'irai pas non plus.
Mais dans pour la vous, terre. Ça n'a rien à voir avec sa condamnation ?
Je n'irai pas. Et la condamnation renforce le fait que je n'irai pas.
Vous trouvez qu'il est normal qu'il reste à l'antenne après une condamnation pareille ?
Je n'ai pas à juger dans l'organisation d'une chaîne, mais personnellement, je n'irai pas.
Et vous ne souhaitez pas qu'aucun de ceux qui travaillent avec vous y aille ?
Personne n'ira.
Personne n'ira. Éric Ciotti, président du parti UDR, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Éric Ciotti, le président de l'Union des droites, était mon invité et il est resté avec nous. Rebonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Rebonjour. Et Christian Estrosi, tiens, d'ailleurs, voulez-vous dire un mot, Éric Ciotti ?
Bonjour, chère Apolline de Malherbe, et bonjour à monsieur Ciotti. Bonjour aux Niçoises et aux Niçois, bien entendu. Je suis très surpris d'être invité avec monsieur Ciotti, que je n'ai pas vu depuis longtemps, puisque nous nous évitons soigneusement.
Oui.
Je dois dire que malheureusement, il a l'air d'être en pleine forme. Il n'a pas vieilli, pas un seul cheveu blanc. Oui, chez moi, derrière un compliment, la vacherie n'est jamais très loin, non, vous le remarquerez. Alors c'est vrai que nous avons eu dans le passé quelques divergences de vues, voire des désaccords profonds. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, puisque ni lui ni moi ne pouvons nous encadrer, voire même nous blairer.
Voilà.
Je pense donc qu'aujourd'hui, pour le bien des Niçoises et des Niçois, il est temps d'enterrer la vache de guerre pour passer de façon plus raisonnable à la tronçonneuse.
Ah oui, à la tronçonneuse. Merci Christian Estrosi. Éric Ciotti, justement, vous êtes candidat vous-même à la mairie de Nice. Vous vouliez répondre.
Écoutez, vous m'avez présenté comme président de l'UDR, comme candidat à la mairie de Nice. N'oubliez pas le cinéaste qui est en face de vous. Oui, ma spécialité, ce sont les biopics sur Christian Estrosi. Qui sont, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui sont de véritables succès sur les réseaux sociaux où je mets en valeur le bilan calamiteux à la mairie de Nice.
Ah oui.
J'ai commis quelques petits courts-métrages à succès comme Le port de la honte,
oui.
Une ville dégueulasse,
ah oui.
L'urbanisme sans permis. Voilà. Et je suis en ce moment sur deux longs-métrages en préparation. Christian Estrosi, Anatomie d'une chute. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir Christian Estrosi ?
C'est pas un peu obsessionnel, ça, quand même, monsieur Ciotti.
Obsessionnel, non, non. Bon, je vous l'accorde, c'est peut-être un peu mono-sujet.
Oui.
Mais je vous rassure, je suis sur l'écriture de la suite du film d'Amélie Poulain. Ça va s'appeler Le fabuleux destin d'Éric Ciotti.
Ah, c'est beau. On va sortir un peu de Nice pour élargir. Quel est votre regard sur Donald Trump et sa politique contre l'immigration ?
Alors, ça tombe bien, on parle d'immigration, parce que j'avais préparé l'interro, je vais travailler le sujet.
Ah oui, sur l'immigration, ça vous intéresse ?
Je me doutais que ça allait tomber là-dessus. Écoutez, chez monsieur Trump, écoutez, d'abord, je ne suis pas américain. Hein, voilà, il y a boire et à manger, mais force est de constater que sa politique de l'immigration est un succès dont il faut s'inspirer. Et je vous le dis ici, si je suis élu à Nice, moi aussi je créerai une politique de migration qui va traquer les Mexicains à Nice.
Il y a des Mexicains à Nice ?
Non, mais c'est pas grave. Écoutez, Madame de Malherbe, on va pas s'arrêter à ce genre de détails. S'il n'y a pas de Mexicains à Nice pour ma politique migration, j'en ferai venir. Voilà. Pour montrer aux Niçois, que je peux les expulser.
Ah, bah, c'est très bien. C'est efficace.
Et puis les Mexicains, voilà, ils iront chez Jean-Marc Mandier parce que moi, je n'irai pas. Vous avez compris, j'irai pas chez Jean-Marc Mandier.
J'ai bien compris. Ouais. Merci, monsieur Eric Ciotti. À l'approche des élections municipales de nombreuses communes, recherchent des assesseurs bénévoles pour tenir les bureaux de vote. Patrick Balkany voulait réagir. Bonjour, Patrick.
Scandaleux cette histoire de bénévoles. Moi, quand j'étais maire de Levallois-Perret, tous mes assesseurs étaient rémunérés. Ils disposaient d'une voiture avec chauffeur, d'un appartement de fonction et d'une mallette remplie de billets de bulletins de vote à mon nom, à déposer dans les urnes. Oui. C'est ça aussi la simplification administrative.
Je vois bien. Enfin, la plupart des petites communes n'ont quand même pas les moyens de payer leurs assesseurs.
Non, mais moi non plus, j'avais pas les moyens de balayer. Je suis fauché depuis 40 ans, tout le monde le sait. Non, mais j'y suis quand même arrivé. Il suffit d'avoir un bon comptable compréhensif qui apprécie les séjours l'inclusive dans un riad à Marrakech. Voilà. Alors, s'il y a des maires qui nous écoutent et qui ne trouvent pas d'assesseur, je peux les aider à organiser leur élection. On sait faire. Il suffit juste que le maire me dise avec combien de voix il veut être élu, un score serré à 51%, ou plutôt s'il préfère un plébiscite à 75%. Voilà.
Merci, monsieur Balkany. Après une semaine d'hésitation, Jordan Bardella a interdit aux élus RN de participer à l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews, une décision qui fait réagir Christine Kelly. Bonjour.
Bonjour. C'est Christine Kelly. Les élus RN ne peuvent plus aller chez Jean-Marc Morandini. Qu'à cela ne tienne, ils sont les bienvenus dans mon espace détente, le spa Christine Kelly. Un havre de paix, loin de la fureur du monde et des turpitudes du studio d'à côté, dans une atmosphère délicate et veloutée, vous serez interviewé avec un gommage des affaires judiciaires, extraction des points noirs de votre carrière, blanchiment de votre réputation et cirage de vos mocassins offerts. Vous pourrez bénéficier d'une de nos prestations signature, en l'occurrence le massage canadien. Une câlinothérapie, en effet, Apolline de Malherbe, tout en douceur, pratiquée par Mathieu Boccoté. Ah oui. Mon équipe vous accueille du lundi au jeudi de 19h à 20h. Gratuit sur présentation de votre carte de membre du RN, du PINS Jordan 2027 ou bien sûr d'un poster d'Éric Ciotti.
Oui.
J'y étais hier soir. J'ai pas eu tout ça.
Vous n'avez pas eu les massages. Le massage canadien.
Il faut réclamer.
Il faut que j'y retourne.
Il va y retourner. Merci Christine Kelly. Nous sommes maintenant avec Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonjour. Votre épouse Carla Bruni est soupçonnée d'avoir utilisé un téléphone secret pour une opération visant à vous innocenter dans un dossier, le dossier des financements libyens.
Quelle indignité, Madame Pujadas.
Oui, Madame Pujadas.
Carla n'a jamais eu de téléphone secret. Qui vous a dit ça? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que Carla, elle n'avait pas de téléphone secret. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que son téléphone secret, en plus, c'était pas le sien, c'était celui de Sylvie Bismuth. Voilà. Donc, et puis, il n'y a pas de secret. Carla, je sais ce que je la connais. C'est simplement qu'au téléphone, vous savez comment elle est comme dans la vraie vie. Elle murmure. Elle parle doucement. Elle parle tellement doucement qu'on peut avoir l'impression qu'elle a quelque chose à cacher, alors que pas du tout.
Au-delà de ça, vous avez quand même engagé une procédure pour ne plus porter votre bracelet électronique.
Mais Mme Pujadas. Le bracelet électronique, je supporte très bien. Si j'en veux plus, c'est pas pour moi, c'est pour la France.
Ah oui.
Parce que, est-ce que vous croyez, franchement, avec la dette qu'on a, est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est utile de dépenser des milliers d'euros pour suivre mes déplacements, alors que pour savoir où je suis, ben les juges, il suffit simplement qu'ils dépensent quelques euros pour acheter Gala, Voici ou Paris Match. Voilà. C'est tellement simple.
C'est pour faire des économies à la France. Merci beaucoup, Nicolas Sarkozy. Merci Nicolas Canteloup, face à Canteloup. Merci aussi à Eric Ciotti d'être resté avec nous, face à Canteloup, demain 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Et dans un instant, c'est les GG, Alain.
Oui, les grandes gueules de 9h à midi. Est-ce que, avec les chiffres de l'immigration, la France est devenue une opération porte ouverte? On regardera aussi les chiffres économiques. Les Français moins riches que la moyenne des Européens pour la troisième année consécutive. On est même rattrapé par les Polonais aujourd'hui. 32-16 pour agir avec les grandes gueules.